saint Léger d'Autun, qui est né au début du 7e siècle dans une famille plutôt aristocratique. Comme quoi, souvent, les gens qui ont tout sont peut-être plus aptes à tout sacrifier, souvent. Ils ont goûté à tout, mais ça ne les intéresse plus. Et ils veulent autre chose. Et quand ils veulent autre chose, c'est quoi? Ça ne peut être que Dieu lui-même. Alors, Léger, c'est son prénom. Hein? Léger fut d'abord un familier de la cour de la région, et il est entré dans le clergé. Il est devenu moine, sans doute moine bénédictin à l'époque, il n'y avait guère que des bénédictins. Il est devenu même abbé du monastère de Saint-Maxent. Maxent, ça s'écrit M-A-I-X-E-N-T, c'est un nom très rare. Saint-Maxent, c'est dans le Poitou. Alors, ceux qui s'appellent Poitevin connaissent le Poitou, au moins de cœur, hein? Et en 659, il a été sacré évêque d'Autun. Je me souviens d'être allé à Autun, il y avait quelque chose d'assez étonnant. D'abord, c'est un monument d'art roman très, très intéressant. Et j'étais allé interviewer, en particulier, lors de mon deuxième ou troisième séjour à Autun, le chanoine Griveaux. Et le chanoine Griveaux était un spécialiste du diable, croyez-moi, croyez-moi pas, mais surtout spécialiste du diable dans l'iconographie. Dans l'iconographie, c'est-à-dire dans les représentations du diable que l'on trouve dans l'art roman en particulier. Vous savez que dans l'art roman, au XIIe siècle, on représentait facilement les âmes qui tombaient dans des gueules épouvantables, des démons qui brûlaient dans les feux. Et alors on enseignait comme ça aux gens par des images la crainte de l'enfer. Et puis, c'était peut-être pas une mauvaise idée jusqu'à un certain point. Et peut-être que ça l'y est dirigé vers des bonnes actions et d'être de meilleurs chrétiens. Qui sait, c'était une époque difficile. Les gens ne savaient ni lire ni écrire. Et il fallait les arracher souvent à un paganisme qui traînait dans la civilisation, comme ça traîne toujours, même dans notre civilisation aujourd'hui, il y a une recrudescence du paganisme. C'est un de mes amis, d'ailleurs athée, qui me disait que ce qu'il désolait le plus dans cette civilisation d'aujourd'hui, c'était le paganisme. C'est curieux de la bouche d'un athée. Hein? Et alors, à Autun, le chanoine Griveaux m'avait montré que le Christ en gloire du tympan. Le tympan, c'est cette grande scène sculptée au-dessus de l'entrée d'une cathédrale, hein, ou d'une église. On appelle ça le tympan. Vous devez tous savoir ce que ça s'appelle, le tympan, mais enfin, je l'explique pour les quelques rares personnes qui ne le sauraient pas. Et là, le Christ en gloire, qui se trône parmi tout le monde, avait perdu la tête. Oui, on lui avait arraché la tête au moment de la Révolution française. Et lors d'une vente à l'enchère, je crois, à Londres, dans des livres qui reproduisaient ce qui était en vente, chanoine Griveaux avait bu, on lui avait attiré son attention sur une tête de Christ qui était en vente, et il s'est dit, mais c'est la tête de mon Christ, c'est pas possible. Alors, il a fait faire des vérifications, et en effet, celle l'était, il a réussi à mettre la main dessus, et grâce au gouvernement français, puis au service qui s'occupe des monuments français, c'est-à-dire des grandes cathédrales, des églises, des abbayes et des édifices publics que l'on veut conserver, car c'est très précieux en France, on veille à ça, eh bien, on a installé la tête, et elle venait d'être installée, et j'ai vu ça, il m'avait montré ça, et on peut dire que le Christ avait retrouvé sa tête, et c'était vraiment très beau, et de voir ce tympan avec le Christ en majesté, le Christ qui était comme ressuscité. Et le chanoine Griveaux s'étendait là-dessus, la joie qu'il avait, c'était extraordinaire. Quand on aime son monument d'art roman, comme le chanoine Griveaux aimait son église, c'est très stimulant. Moi, ça m'avait entraîné à visiter pendant 7 mois presque tout ce qu'il y avait d'art roman en France. J'ai beaucoup aimé ce voyage que j'avais fait, une sorte d'année sabbatique. Alors, pour revenir donc à notre évêque d'Autun, il a mis en œuvre ses qualités d'administrateur. C'était un aristocrate, il savait comment administrer, puis il a entrepris notamment des travaux de restauration importants dans sa ville épiscopale, et il a travaillé également, et c'est très important, à réformer son clergé. Je ne dis pas qu'il faut toujours réformer le clergé, mais je crois qu'il faut toujours stimuler le clergé. Car c'est pas facile d'être prêtre. Et je crois qu'une grande partie du clergé est portée à se décourager facilement. La répétition des mêmes gestes, l'audition des mêmes péchés, la rencontre des mêmes plaintes, des mêmes tourments chez les gens, la solitude, l'angoisse personnelle, l'inquiétude. Vous savez, quand vous voyez vos prêtres et que vous avez l'idée de les blâmer, retenez-vous, priez, allez à leur Eucharistie, même si l'Eucharistie n'est pas très drôle. Mais réfléchissez au sens des textes que vous avez entre les mains. N'assistez pas à la messe sans texte. Méditez les textes et priez pour ce prêtre. Parlez-lui, montrez-lui un peu d'affection. Transformez-les. Ça se transforme, ils ont besoin d'aide. Pas tous, mais certains d'entre eux. Puis l'évêque Léger d'Autun a rétabli la discipline monastique. Car souvent dans les monastères, il y a une descente, une espèce de descente aux enfers. Nous sommes tous portés à ça, à nous laisser aller. Et alors ça prend souvent des hommes, des saints, pour reconstruire l'Église et la réformer de l'intérieur. Je suis bien d'accord avec les protestants qui ont voulu réformer le christianisme. Mais je les plains d'avoir désiré le réformer en dehors de l'Église. Et je leur tends la main. J'aime beaucoup aller prier avec eux. Je prie souvent avec les protestants dans des églises près de chez moi. Je vais m'asseoir, même si c'est en anglais, c'est pas grave. Vous savez, on peut prier Dieu en anglais. Je le fais souvent. Et puis, je connais leur chant maintenant et j'aime bien. Alors, très attentif, Saint Léger d'Autun, à la condition des pauvres. Il a même abandonné sa fortune, car, je vous le rappelle, il était aristocrate. Il a abandonné sa fortune personnelle au profit des œuvres charitables. Mais tous ses malheurs sont venus de son activité politique. Bien, oui, il s'est engagé politiquement. Imaginez. Il fallait qu'il s'engage politiquement, il ne pouvait pas faire autrement, c'était un saint. Car la reine Bathilde l'avait appelé à s'engager. Cette souveraine, la reine Bathilde, qui était une ancienne esclave, anglo-saxonne, elle a été canonisée. Elle est fêtée le 30 janvier. Je vous en parlerai, c'est une sainte assez curieuse et intéressante. Eh bien, cette souveraine, elle assurait alors la régence. Puis elle avait pris Saint Léger d'Autun pour conseiller avec d'autres hommes d'église. Mais quand le roi est devenu majeur, mais il y a eu ce qu'on appelle un maire du palais, c'est-à-dire un dignitaire important du palais, qui était ambitieux et jaloux. Il s'appelait Ébrouin. Il a obligé la reine à se retirer dans un monastère, imaginez. Ce qui correspondait d'ailleurs, jusqu'à un certain point, au désir de cette reine. Souvent les reines, les rois, les princes, se retiraient dans des monastères. Je vous ai déjà dit que j'avais connu le marquis de Vauguet, j'ai pas connu sa femme, j'ai connu le marquis de Vauguet qui s'est fait moine à l'abbaye de la Pierre-Quivire où moi-même je voulais entrer en 1950. Et le marquis de Vauguet était un des hommes les plus puissants de France. Il avait une trentaine de serviteurs, vous vous imaginez. Une trentaine de serviteurs, c'est énorme. Et alors donc, le fameux Ébrouin qui était jaloux de Léger, il a écarté Léger de la cour quand il a fait rentrer la reine dans un monastère. Mais Léger, Saint Léger, s'est trouvé à nouveau mêlé à des rivalités de pouvoir. Et là, la vengeance d'Ébrouin était terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a torturé, il l'a fait torturer. C'était effrayant. On peut pas raconter les tortures que cet Ébrouin épouvantable, ce maire du palais, a fait subir à cet évêque. On peut dire, ça relève de la légende, mais c'est pas vrai. Ça ne relève pas de la légende. On a les documents les plus sûrs au sujet des tortures qu'il a endurées. On peut pas mettre en doute leur historicité. Je vous raconte simplement quelques détails. Je ne veux pas tout vous dire parce que c'est épouvantable. On lui a crevé les yeux lentement. On lui a arraché la langue. On lui a arraché les lèvres. Pas les couper lentement, rapidement, là, mais lentement. Et Saint Léger a survécu à tout ça. Il en a été un peu guéri. Mais il était aveugle, il a pu reprendre, si on peut dire, un peu son activité sacerdotale, mais c'était pas facile. Vous savez que l'un des prêtres les plus fameux de ce siècle, c'est un aveugle, aveugle de naissance, dont je vous parlerai, même s'il n'est pas décédé encore. C'est un prêtre tellement merveilleux, un dominicain français. Or, en 678, le fameux Hébrouin, là, qui l'avait fait torturer et qui est mort assassiné, non content de lui avoir infligé toutes les tortures épouvantables à notre évêque, il l'a accusé d'avoir trempé dans l'affaire du meurtre du roi. Et là, il s'en est débarrassé complètement, il l'a fait décapiter. Alors, on peut penser qu'au début de sa carrière, Saint-Léger d'Autun a été réellement mu par l'appétit du pouvoir, comme certains l'ont dit, mais c'est pas vrai. Il a pu apprécier la gloire humaine qu'il avait reçue dès sa naissance à sa juste mesure, mais il l'a apprécié puis il l'a comparé à la gloire qui vient du Christ quand on se donne à lui. Parce que quand on se donne au Christ, la gloire que l'on reçoit, c'est une gloire tout à fait différente, c'est la gloire d'un grand souffrant. C'est la gloire de quelqu'un qui a été massacré, mais qui est ressuscité. Et avec lui, bien, quand on se donne au Christ, on ressuscite intérieurement. Et on devient tout autre. Vous tous qui m'écoutez, qui vous êtes donnés au Christ, vous savez ce que je veux dire. C'est à l'intérieur que ça se déroule. C'est une paix, une sérénité à nul autre pareil, et peu le comprennent qui ne l'ont pas vécu. Saint Léger d'Autun est fêté le 2 octobre dans l'église orthodoxe, car ils le connaissent là-bas. Nos églises n'étaient pas séparées encore au 7e siècle. Elles se sont séparées en 1054, je vous le rappelle. Alors donc, il est célébré dans l'église orthodoxe le 2 octobre et le 20 octobre dans notre église. Maintenant, j'aimerais vous parler de Saint Jean le Nain, cet anachorète du 5e siècle. Bon, on recule encore dans le temps, c'était il y a très longtemps. Mais notre Église, qui a 2000 ans, offre à notre mémoire des saints constamment. Ils n'ont rien perdu, à mon avis, de leur grandeur, même après 1500 ans, comme Saint Jean le Nain. On l'appelait le nain parce qu'il était évidemment de taille fort petite. Il était tout petit. Mais la grandeur de son cœur l'a rendu célèbre parmi les pères du désert. C'était à l'époque des pères du désert dont je vous ai déjà parlé, ces hommes qui vivaient à l'écart du monde, dans le désert, et qui nous ont laissé quantité d'écrits. Très intéressant, il faut lire ça, les écrits des pères du désert, et souvent, il s'est plein d'humour. Alors ce saint Jean le Nain a eu comme maître un ermite, évidemment. Et l'ermite l'a habitué à se vaincre lui-même pour n'obéir qu'à ce que la grâce lui inspirait. Car pour vraiment obéir à la grâce que l'on entend au fond de son cœur, ou que l'on peut lire dans un texte, ou dans une audition d'une émission à Radio Ville-Marie, il y a des émissions qui nous parlent profondément au fond de notre cœur. Mais pour obéir à ça, il faut déjà avoir une certaine discipline, On ne peut pas entreprendre une marche solide si on ne s'entraîne pas à marcher solidement et fermement pendant un quart d'heure chaque jour, puis une demi-heure chaque jour. On ne peut pas monter des escaliers en courant pour attraper son autobus si on ne s'entraîne pas un peu tous les jours. On ne peut pas faire des exercices un peu violents, et c'est la même chose dans la recherche de Dieu. Alors les moyens pour remporter la victoire ont été quoi? C'est toujours les mêmes moyens. Rien n'a changé. C'est la mortification. On me dira, la mortification, c'est fini en 1995. Je ne le crois pas. Il faut savoir se mortifier. Mais se mortifier dans les actions quotidiennes ordinaires. Faut pas chercher midi à 14h. Saint Thérèse l'Enfant Jésus nous l'a bien montré. C'est de faire des petites choses très très simples qui ouvrent le cœur. Je vais vous donner un exemple. Je vous parle souvent de mon petit-fils Pascal que j'aime tellement. J'aime bien le voir quand on court dans le métro puis qu'il aperçoit un papier, un sac de chips qui traîne par terre. Ça le fâche, mais il ne manifeste aucune colère. Mais il le ramasse simplement et le jette dans un panier. Et pourquoi pas? Si tous les enfants et tout le monde faisaient ça, moi je le fais moi-même à l'exemple de mon petit-fils parce qu'il me donne l'exemple. Et maintenant, les gens doivent me trouver un peu stupide de ramasser des papiers dans le métro ou ailleurs. Et pourquoi pas? C'est une mortification. Toute petite, il y en a de bien plus grandes. Et il faut aussi de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est de reconnaître les dons qu'on a, les qualités que l'on a. Si grandes soient-elles, on peut être un génie. Ça existe, il y a quelques génies sur cette terre. De reconnaître que les dons qu'ils ont, c'est pas eux. Ils se sont pas fait génies. Un pianiste qui joue comme Mozart, ou comme André Mathieu qu'on a vu à la télévision l'autre soir, au beau dimanche, ce sont des dons. Ils se les ont pas donnés. Ça leur est donné, et c'est par le Créateur. Et afin d'éprouver son obéissance, et voir jusqu'où il obéirait, ben son maître, son ermite, dit la légende, lui avait ordonné, et c'est une très vieille histoire, on racontait ça dans mon enfance, sur l'obéissance. Écoutez bien ça. Lui a ordonné de planter le bâton qu'il tenait en main et de l'arroser chaque jour jusqu'à ce qu'il eût poussé des feuilles et donné des fruits. Alors chaque jour, notre Jean, le nain, obéissait. Et bien qu'il l'arrosait, et puis il allait puiser à la rivière, qui était très assez éloignée de l'eau, il continuait. Une année a passé, imaginez, arroser tous les jours. Puis une autre année, encore une troisième. Il était obéissant, hein? Mais Jean le Nain obéissait toujours et toujours et toujours, et au bout de 3 années de cette soumission absolument presque folle, héroïque, hein? Voilà, dit-on, dans la légende, que le bâton de Jean le Nain a pris racine, il a donné des fruits, et le vieil ermite qui lui avait enseigné ça, les a cueillis, les a portés à l'église. Il a dit aux religieux qui se sont réunis, « Prenez mes frères et mangez les fruits de l'obéissance. » Jean le Nain, étant novice, a déclaré à ses frères, « Je voudrais vivre sans distraction et ne pas plus penser aux choses de la terre que les anges, afin d'être capable de servir et louer Dieu sans interruption. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'idéal très rare, l'idéal monastique. Seuls les moines, les moniales, peuvent porter, dire des paroles comme celle-là, ou les ermites. Ce sont des vocations très rares, mais ce sont de très grandes et très belles vocations. Ce sont des gens qui nous rappellent l'essentiel, à nous qui sommes pris dans le monde avec des devoirs. Bon, demain, moi, j'ai des engagements avec mon petit-fils. J'ai des engagements, il faut que je l'amène au musée d'art contemporain, il faut que je l'amène ici et là. Bon, puis dimanche, je l'amène à l'hôpital Saint-Charles-Borromée. Il y a une messe formidable, à 10h30, boulevard René-Lévesque, près de Saint-Laurent. Quelle messe magnifique! Ne négligez pas d'aller à ça. Amenez vos enfants. C'est magnifique. Alors, notre Jean le Nain s'est enfoncé dans le désert pour mener une vie angélique. Beaucoup de réflexions de Jean le Nain nous ont été conservées. C'est plein d'enseignements. Il disait, lorsqu'un général veut prendre une ville, il commence par affaiblir les assiégés en leur coupant l'eau et les vivres. Et de même, si nous voulons réduire nos passions, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord affaiblir l'ennemi à l'intérieur de nous, par des mortifications. Et c'est vrai. En somme, il faut fuir certaines occasions de danger. Aussi, il faut pratiquer une mortification, une certaine mortification. Ainsi, en se rendant à l'église, en rencontrant des hommes qui se disputent, Jean le Nain retourne à sa cellule pour se recueillir et rétablir en lui le calme dont il ne veut pas se départir s'il veut pratiquer l'oraison. Quand on regarde des émissions violentes à la télévision, quand on regarde la lutte, je ne sais pas si vous regardez ça, c'est épouvantable. Comment peut-on pratiquer l'oraison après ça? Comment peut-on être paisible? Enfin, un jour qu'il priait, il faisait des nattes sur le chemin de Cété, du désert de Cété, S-C-E, accent aigu, T-E, accent aigu. Mais il y avait une voiture, et puis le cible qui dirigeait la voiture, la câblé d'injures. Et plutôt que de lui répondre, ben Jean est allé en silence d'un autre côté de la route, avec grande application de ne lui pas perdre la tranquillité de son âme, que Dieu remplissait. Et tout le monde a été étonné de la patience. Il expliquait que la meilleure manière de convertir le prochain, c'était la bonté. Il est impossible, disait-il, de bâtir une maison si l'on veut commencer par le haut et finir par les fondements. Et il assurait qu'avant de prêcher son prochain, il faut l'aimer. Quand vous montez en chaire ou quand vous vous prêchez. Je m'adresse aux prêtres, je m'adresse aux diacres. Aimez-nous. Qu'on sente que vous nous aimez. Jean le Nain s'y connaissait à convertir le monde et tout le monde. Il arriva qu'une femme nommée Paésie était lassée de la sainte vie qu'elle menait. Puis elle est devenue une pécheresse. Et Jean, qui l'apprit, se met en route pour aller la trouver chez elle. N'avait pas lui ouvrir. Alors il s'en va pas, il reste là et toujours il demande à entrer. Puis à la fin, la porte s'ouvre. Jean dit simplement, doucement, « Quelle raison avez-vous de vous plaindre de Jésus-Christ pour l'abandonner et vous plonger dans un abîme de désespoir ?» Alors il demande cela avec tant de charité que cette femme en a été toute remuée. Puis elle s'est mise à pleurer. Et puis lui aussi s'est mis à pleurer. Alors il dit, « Comment ne pleurais-je pas ?» Quand je vois que votre cœur est livré au démon. Sur les derniers jours de sa vie, alors qu'il allait mourir, il a dit, « Je n'ai jamais suivi ma propre volonté. Je n'ai rien enseigné aux autres que je n'ai pratiqué le premier. » Je le répète, c'est très beau. Saint Jean le Nain qui dit, « Je n'ai rien enseigné aux autres que je ne l'ai pratiqué le premier. » Ici Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous parle depuis quelque temps de l'aide à l'Église en détresse, une œuvre qui soutient l'Église souffrante. Saviez-vous que l'aide à l'Église apporte une aide pastorale extrêmement importante dans 115 pays? Elle a été fondée par un prémontré, le père Van Straten, et le pape Jean-Paul II l'a élevée au rang d'association de droit pontifical. Or, en tant que simple bienfaiteur, je suis heureux de soutenir cette œuvre dans son travail pastoral. J'aide ainsi, avec tant d'autres, des milliers de prêtres pauvres et inquiets. J'aide à construire des églises, à former des séminaristes et à nourrir des réfugiés. Vous voulez mieux connaître cette œuvre extrêmement importante en recevant gratuitement son bulletin d'information? Alors composez le 332-6333, l'aide à l'Église en détresse, 332-6333. Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle, au microphone Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous parle maintenant d'un saint polonais. Comme hier, je vous ai parlé de ce saint polonais non canonisé, Jerzy Popiełuszko. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque ce livre que je cherchais depuis plusieurs jours. Je l'ai retrouvé la nuit dernière. C'est Le chemin de ma croix, messe à Varsovie de Jerzy Popiełuszko, publié par les éditions Cana, Le chemin de ma croix. Ce sont les sermons qu'il a prononcés à ces messes extraordinaires qu'il célébrait chaque mois à Varsovie, à l'église Saint-Stanislas Koska. Et puis, savez-vous que les dernières paroles qu'il a prononcé à cette messe, la fin de ce livre, à la page 198, c'est superbe. Il dit, ce Popiełuszko, ce prêtre martyr, « Personne n'a donc le droit de priver quelqu'un de sa patrie, où il est fixé depuis des générations. Présentons à Dieu dans nos prières ces deux problèmes très difficiles et également très importants. Et pensons-y durant la semaine qui vient. Amen. » C'était ses dernières paroles officielles comme grand aumônier de Solidarnosc, solidarité, en Pologne. Et Saint Jean de Kanty, ce prêtre polonais qui est mort en 1473, était né en 1390, il est donc mort à 83 ans, et on doit à la charité de ce Jean de Kanty une tradition très intéressante. Beaucoup de gens font une place aux pauvres chez eux, et on faisait ça surtout autrefois quand j'étais jeune, hein. Une place à un pauvre à table. Alors, un pauvre qui était à la porte du réfectoire du couvent où il était, où il habitait, où chacun n'avait que sa juste part, mais Jean de Kanty a donné toute sa portion, lui, à un malheureux, à ce pauvre qui quêtait. Et depuis lors, la part du mendiant a toujours été réservée dans son couvent, et ça s'est répandu à travers l'Église, par cette formule Pauper venit, le pauvre vient. Et le moine qui dressait la table et mettait une place comme ça pour le pauvre disait à voix haute, Pauper venit. Et les moines répondaient, Jesus Christus venit, Jésus-Christ vient. C'est magnifique, très belle tradition. Ce Jean de Canty donnait aussi bien même son manteau à celui qui avait froid. Et qui a fait ça au XXe siècle, donner son manteau à celui qui avait froid? Si ce n'est l'abbé Maurice Zundel, dont il a été question cette semaine à l'émission de Gilbert Charon, quand il a interviewé le père Bernard de Boissière, un de mes amis qui est un Français que j'aime beaucoup, Bernard de Boissière, le jésuite, qui est un spécialiste de l'abbé Maurice Zundel, auteur de livres magnifiques qui m'ont beaucoup inspiré depuis 40 ans. Et puis, Jean de Canty était passé maître en charité, d'accord. Mais il y avait de l'humour. Écoutez bien ça. Un jour, il voyageait vers Rome. Il a été assailli par des voleurs qui l'ont dépouillé. Il leur a dit, « Il ne me reste plus rien. » Ils sont partis. Là, il s'est aperçu qu'il lui restait de l'argent dans la doublure de son vêtement. Alors, il y courait après les voleurs, il les a rattrapés, il s'est accusé d'être voleur lui-même en leur remettant cet argent. Et d'après l'histoire, cet acte, plus ou moins d'humoriste au fond, mais d'humoriste saint, mais on dit que les brigands se sont convertis sur le coup. Le pays de Jean de Canty, mais c'était tout près de Cracovie, la ville où Karol Wojtyła, Jean-Paul II, était évêque. Alors, c'est là qu'il avait fait ses études. Il était devenu, vous savez, docteur en philosophie et en théologie, Jean de Canty. D'ailleurs, il a reçu le sacerdoce, il était titulaire d'une chaire d'université. Il parlait en latin couramment, évidemment polonais. Et là, il y a eu la guerre hussite. Et le pape lui a rendu hommage, il n'y a pas longtemps, en allant en Tchécoslovaquie. Il a rendu hommage à Jean Hus et aux hussites. Parce que des catholiques violents ont martyrisé Jean Hus et des hussites, et le pape leur a rendu hommage. Qui se serait attendu à ce que un pape fasse amende honorable? Vous savez, on dit souvent que c'est un pape de droite, il faut être un peu de gauche pour faire des choses comme ça, il me semble. En tous les cas, lorsque Saint Jean de Canty jugeait nécessaire de se poser dans des assemblées controversistes pour qu'on discute avec ces gens-là, il le faisait avec beaucoup de mansuétude et d'indulgence. Il ne savait qu'une réponse. Quand les hussites l'injuriaient, il disait Deo gratias, tout simplement. C'est la seule façon de discuter. On ne discute pas en s'engueulant. Hein. Et pendant le temps où il était curé de Cracovie, il était moyé d'une grande charité. Et la prédication le réclamait de nouveau, alors il a été chargé d'enseigner l'histoire sainte, la religion aux enfants du roi de Pologne. Il a fait un pèlerinage à Jérusalem. Il s'est fait écouter très gentiment et avec beaucoup de grâce par les musulmans qui ont écouté sa prédication trinitaire, ce qui n'est pas facile auprès des musulmans. Hein. Mais il était tellement bon qu'ils l'ont écouté. Quand il est mort, très âgé, sa sainteté était célébrée partout où il avait passé. Et Jean de Canty a laissé cette belle prière. Écoutez bien cette belle prière, c'est magnifique, c'est un peu difficile, mais elle est très belle, c'est très court. Accordez-nous, en vous aimant, vous, par-dessus tout, et tous à cause de vous plaire dans notre cœur et dans notre action. Et nous passons maintenant à Sainte Marie Bertie, boscardine, une Italienne de la congrégation des sœurs de Sainte Dorothée qui est mort en 1922. Écoutez bien ça parce que c'est vraiment une vie très touchante. Vous connaissez sans doute autour de vous des gens qui n'ont pas une intelligence remarquable, qui tombent sur les nerfs des autres, qui sont un peu fatigantes. Mais c'est une sainte comme ça. Elle est la sainte des gens qui sont lents, qui comprennent pas grand-chose, qui ont de la misère et qui souffrent beaucoup. Elle est née dans un petit bourg, aux environs de Vicence, dans le nord de l'Italie, à Brendola. Elle s'appelait Anne-Françoise Boscardine. En religion, on l'a appelée Marie Bertille. Donc, cette Anne-Françoise Boscardine, les gens de sa famille l'appelaient Annette. Ça lui donne, c'était Anne-Françoise, donc Annette. Elle est née le 6 octobre 1888. Il y a à peine 100 ans, quoi. Sa mère, Marie-Thérèse Benetti, a très bien élevé ses trois enfants. Et la petite Annetta était l'aînée. Elle est devenue une grosse sœur. La mère a été plutôt mal secondée par son mari. Elle n'avait pas un mari très très sympathique. Pourtant, il s'appelait Angelo. Ange, il aurait dû être sympathique, mais non. Il avait un mauvais caractère. Il était coléreux. Puis il aimait la boisson. Pauvre femme qui avait marié un homme comme ça. Et dès l'âge de 5 ans, notre petite Annetta, peut-être pour se consoler d'avoir un tel père, elle aimait prier longuement à genoux devant l'image de la Madone qui était suspendue dans la cuisine. Puis elle aidait sa mère pour les travaux du ménage. Elle aidait son père même, dans une petite exploitation agricole, ils étaient pauvres, sur une petite terre. Où ils élevaient quoi? Des vers à soie. C'est assez curieux. Mais de temps en temps, Annetta allait à l'école, elle a appris son catéchisme. Sa piété a paru tellement solide qu'elle a été admise à faire sa première communion le 25 mars 1897 à 8 ans, ce qui était une faveur absolument exceptionnelle à 8 ans à l'époque. J'étais 12 ans à cette époque-là. Mais par ailleurs, Annetta semblait pas particulièrement douée, elle avait une intelligence lente, même très lente. Elle avait peu de mémoire. On la comparait à une oie. On la traitait d'oie. C'est pas très gentil. Hein? D'ailleurs, c'était son sobriquet. Et puis, son sobriquet lui est resté l'oie. Elle s'en offusquait pas. Elle continuait d'envisager la vie avec le même sérieux. Un prêtre de son village, de Brendola, s'appelait Don Capovilla, a reconnu qu'elle avait la vocation religieuse. Alors le curé, Don Cressele, a trouvé l'idée drôle. Il a déclaré à sa jeune paroissienne, « Annetta, tu n'es bonne à rien, voyons donc, des religieuses seraient pas quoi faire avec une petite paysanne ignorante comme toi. » Et la pauvre Annetta prit une mine si attristée que ce curé qui, au fond, était bon, en a été profondément touché le lendemain, mais le curé l'a rappelé. Puis là, il a décidé qu'elle serait capable d'éplucher des pommes de terre, après tout. Alors, il est allé la présenter à un couvent. Là, le commentaire dont il l'accompagna, pour essayer de réparer les choses, ça n'a pas suffi à faire accepter notre petite Annetta. Alors, les sœurs de Sainte-Dorothée, qui étaient beaucoup plus indulgentes, l'ont accueillie dans leur maison de Vicence. Elle avait 16 ans quand elle y entra le 8 avril 1905, et en arrivant, elle a déclaré à la maîtresse des novices, « Je ne sais rien faire, je suis une pauvre chose, une oie. Instruisez-moi. J'ai besoin de devenir une sainte. » Quelle belle parole, hein? « J'ai besoin de devenir une sainte. » Si on en sentait nous-mêmes le besoin, on ferait peut-être comme cette pauvre petite sainte. Et on lui a donné le nom de Marie Bertille. Hein? Je vous ai dit qu'il y avait deux Bertilles. Il y a une Belge, Bertille, qui était mariée, en fait, le 18 septembre. Elle est morte en l'an 600. L'autre Bertille a vécu à Marolles, c'est une veuve, et puis elle est morte le 3 janvier 687. C'est un vieux nom, Bertille. Mais c'est pas si laid comme nom. En tout cas, cette sœur Marie Bertille était robuste, et on l'employait aux travaux les plus pénibles. On a fait cuire le pain dans le four. On l'a envoyé à la buanderie, pas facile ça. Mais ses vertus se sont épanouies lentement, spécialement la douceur. Elle était très différente de son père, qui était un irascible. La supérieure générale des sœurs de Sainte-Dorothée a vu que sœur Marie Bertille pourrait peut-être devenir infirmière. Alors elle l'a envoyée passer la seconde année de son noviciat à l'hôpital de Trévise. Et là, la supérieure locale, qui s'appelait sœur Marguerite, a été très déçue en voyant arriver cette novice, qui était plutôt timide et maladroite, au visage empâté et inexpressif. Puis il y avait à la cuisine une religieuse âgée et malade. Et là, sœur Marie Bertille lui a été donnée comme aide. Puis finalement, elle est retournée à Vicence, ou Vicence.
pour y prononcer ses vœux en 1907. Et là, la supérieure générale, qui n'avait pas abandonné son projet d'en faire une infirmière, l'a renvoyée à Trévise. Et sœur Marguerite, la supérieure, la Trévise, n'a pas montré d'enthousiasme. Encore toi ici? Oh, bonne mère générale, que dois-je faire de cette fille? J'ai besoin de véritables infirmières pour la chirurgie et les maladies contagieuses et on m'envoie des sujets de cette espèce. Alors elle a expédié sœur Marie-Bertie à la cuisine et sœur Marguerite, la supérieure, qui manquait vraiment d'infirmière, a fini par se décider à envoyer sœur Marie-Bertie dans la salle où étaient soignés les enfants atteint de diphtérie. Et écoutez le miracle qui s'opère à l'étonnement général. Mais cette sœur maladroite est apparue aussitôt comme une infirmière intelligente et habile, parce qu'elle était capable de fermeté. Elle témoignait aussi une telle charité aux malades que les malades pouvaient lui refuser, étaient incapables de lui refuser leur confiance et s'abandonnaient à elle. Et son instruction rudimentaire, ça semblait être un obstacle. Mais sœur Marie-Bertie a réussi à préparer des examens qu'elle a passés brillamment. Et son activité, toute souriante, a pas laissé voir que sa santé s'était brusquement altérée. Elle souffrait. Elle sentait en elle croître un certain mal, sans rien laisser paraître, et les années ont passé. Sœur Marie-Bertie tenait son emploi. Mais là, l'Italie est entrée en guerre en 1915, et l'hôpital de Trévise s'est mis à recevoir des blessés, et là, sœur Marie-Bertie prenait une grande influence sur eux. Elle les préparait à mener une vie plus vertueuse et adoucissait les derniers moments de ceux qui allaient mourir. Et puis, après un désastre qui a eu lieu à Caporetto en 1917, bien, la ville de Trévise s'est trouvée tout près du front. Alors là, il y a eu des bombardements. Et là, les sœurs étaient effrayées, restaient comme paralysées, mais elle, sœur Marie-Bertie, toute simple, elle récitait son rosaire pour se donner du courage. Elle allait porter du café et du vin aux blessés, qu'on ne pouvait transporter dans les caves. Et là, l'hôpital a été finalement évacué. Et sœur Marie-Bertie a été envoyée près de Côme, et sa nouvelle supérieure l'a jugée sans indulgence. Et bientôt, elle a déclaré qu'elle se surchargeait de travail parce qu'elle s'attachait trop à ses malades. Ils l'ont expédiée à la buanderie. C'est gentil, hein? Alors, elle y est restée 4 mois jusqu'à la visite de la supérieure générale qui, mécontente, l'a ramenée avec elle à la maison mère de Vicence. Elle avait une supérieure générale intelligente. Et sœur Marie-Bertie n'avait jamais rien réclamé. Après l'armistice, elle fut envoyée de nouveau à l'hôpital de Trévise. Et sa santé s'accommodant bien mal des veilles qu'elle s'imposait, s'est abîmé, puis là, une opération était jugée nécessaire. Et sœur Marie-Bertie acceptée. L'opération était pratiquée. 3 jours après, le 20 octobre 1922, elle est morte. Les sœurs, les médecins, les malades ont tous compris que c'était là vraiment une humble sœur remplie de vertu. Et aux louanges que tous ont formulées, Dieu a répondu par quoi? Par des miracles. Et sœur Marie-Bertie a été béatifiée par Pie XII en 1952, en présence des membres de sa famille. Ben oui, c'est seulement 30 ans après sa mort. Et même des anciens malades qu'elle avait bien soignés étaient là. Et finalement, elle a été canonisée il y a quelques années par Jean-Paul II. Et maintenant, je tiens à vous parler de Florence Nightingale, ou Florence Rossignol, si vous voulez, car Nightingale, ça veut dire Rossignol, oui, comme notre comédienne que l'on aime bien, Michel Rossignol, que j'ai bien connue autrefois quand j'étais au Théâtre du Nouveau Monde. Quelle femme dynamique, Michel Rossignol. Et j'ai l'impression que Florence Nightingale avait le même esprit d'audace et de courage, et dans un autre genre, hein. Or, dans sa vie, s'est déroulée, alors qu'elle était encore très jeune, elle est née en 1821, et c'est en 1854, le 21 octobre, que s'est déroulé un événement qui annonce l'écuménisme contemporain. Si nous ouvrons le dictionnaire au nom propre, on trouve ces lignes-là, Nightingale, Florence Nightingale, philanthrope anglaise, se dévoua pendant la guerre de Crimée, précurseur de la Croix-Rouge. Il faudra en dire beaucoup plus sur elle. C'est une âme compatissante, une compassion active. Cette Anglaise de vieille souche est née à Florence, en 1821. C'est ce qui lui a valu son prénom, de Florence ou Florence. Elle appartenait à une famille très riche. Les Anglais aimaient bien aller vivre à Florence. Il fait beaucoup plus beau qu'à Londres. Il semble qu'en elle, tout est grâce, tout est harmonie. C'est une fille extraordinaire. Elle est très prélettrée, très fortunée. Mais la charité habite son cœur. Madame Nightingale tenait dans le château le rôle de maîtresse de maison selon le monde, mais aussi selon Dieu. Alors, elle a inculqué à sa fille le sens des occupations familiales avec dévouement, mais aussi de faire la charité. Alors, c'est la petite Florence qui va porter aux pauvres les potions, les remèdes, les gâteries qui sont préparées au château. Alors, les fermiers, les serviteurs sont traités comme des familiers, et c'est la petite Florence ou Florence qui les visite avec une exquise bonne grâce. Et soigner, c'est son rêve. C'était peut-être facile pour une enfant qui manque de rien, qui est riche, qui est aristocrate, presque, d'avoir le frère de la charité, c'est facile. Mais pourtant, quand je regarde, je reviens encore à mon petit Pascal. Il est toujours prêt à donner ce qu'il a, et pourtant il n'a pas tellement de choses. C'est la charité qui habite le cœur de certaines personnes, et c'est si beau. Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais Florence, qui est très belle, qui a une très grande culture, et qui possède une immense fortune, elle a déjà voyagé, puis elle a fait son entrée dans le monde, comme on disait à l'époque, et on l'adule. Hein? Son rêve, c'est d'être infirmière. Je dédie donc cette petite émission-ci aux infirmières, parce que j'en ai eu dans ma vie, j'ai déjà été malade un peu. Que de courage. Alors, nous sommes dans la première moitié du 19e siècle. C'est une époque où le choix d'une profession pour une femme de bonne société, comme on disait, ça équivalait à quoi? Ben, un divorce. Ça allait contre toutes les idées, contre tous les préjugés. Mais elle, Florence Nightingale, elle ne se gêne pas. Elle commence par voyager. Elle va en Allemagne. Elle visite l'Institut des diaconesses de Kaiserswerth. Elle n'est pas catholique. Elle fait connaissance aussi, cependant, avec les sœurs de charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui sont catholiques, et lentement, à leur contact, le projet d'une fondation mûrit dans son esprit. Il faut faire rayonner la notion de charité, qui est exercée plus particulièrement et avec beaucoup plus d'adresse par les femmes. Alors, elle veut fonder une école d'infirmières. Elle veut remédier par là la misère des hôpitaux de son temps. C'est épouvantable dans les hôpitaux à cette époque. Car alors, le service hospitalier était très négligé en Angleterre, mais il y avait une urgence encore bien plus dramatique qui surgit. C'était quoi? C'était la guerre de Crimée. Vous savez, la Crimée, c'est quoi? C'est la péninsule qui est au sud de la Russie, sur la mer Noire. C'est là qu'il y a Sébastopol, Yalta. Alors là-bas, sur les rives de la mer Noire, ben, les soldats anglais et français soutiennent des combats terribles. Il y a des morts, des blessés qui s'amoncellent. Et les secours font défaut. Alors, la France a envoyé quoi? Elle a envoyé 50 filles de la charité. 50 sœurs. Vous savez, ces sœurs avec ces grandes coiffes blanches, les grands costumes bleus, et ce châle autour du cou blanc, magnifique. Ces sœurs qui avaient un costume absolument flamboyant, extraordinaire, qui était pourtant un costume d'humbles femmes à l'époque où elles ont été fondées par Saint-Vincent-de-Paul. Alors, on manquait de tout. Et sur ce point, c'était effrayant. L'armée anglaise était dépourvue. À l'appel du journal Times, nombre de femmes dévouées auraient voulu répondre en Angleterre pour aller servir les blessés, mais elles manquaient totalement de formation puis d'organisation. Et alors, Lord Sidney Herbert a écrit à Miss Nightingale, notre héroïne, pour lui proposer de prendre la direction des secours au front de Crimée. Sa lettre a croisé celle de Florence Nightingale, qui proposait, elle, ses services. Alors là, le ministère de la guerre de Grande-Bretagne la nomme officiellement surintendante générale des hôpitaux de Scutari. Scutari, c'est à la frontière, je dirais, de l'Albanie, de la Yougoslavie. C'est en Albanie. Alors, son nom seul soulève l'enthousiasme. Florence Nightingale. Pourquoi? Mais parce que c'est Florence, c'est un beau nom. Florence, un nom de ville. Et puis Nightingale, qui veut dire rossignol. Tout le monde trouve ce nom absolument extraordinaire. Alors, autour de ce groupe de nurses, d'infirmières, de volontaires qui partent pour la Crimée, Les louanges, les critiques aussi s'élèvent, et Florence n'a cure ni des unes ni des autres. Ça ne l'intéresse pas. Elle prépare en secret son départ, qui a lieu quand? Le 21 octobre 1854, c'est l'anniversaire, il y a 141 ans, à la tombée de la nuit. Il y a là 4 nurses protestantes, 10 sœurs de charité catholique, 3 nurses laïques. C'est un coup d'écuménisme extraordinaire. C'est l'aurore de l'écuménisme. Et là, la tâche semblait dépasser la possibilité de ces femmes, si héroïques soient-elles, hein. Les hôpitaux regorgeaient de blessés. Et là, ces femmes-là étaient mêlées à des gens qui souffraient plus ou moins de choléra et de typhus ou de fièvre typhoïde. Les blessures étaient souvent anciennes et infectées. La nourriture était absolument infecte. Le matériel hospitalier était inexistant. Et bien que le ministère de la guerre de Grande-Bretagne ait affirmé au départ qu'ils approvisionneraient tout ça de façon normale, il n'y avait rien de fait. Alors le premier soin de Florence Nightingale est de s'adresser au ministère de la guerre et d'alerter l'opinion publique en Angleterre. Elle dénonce le scandale des hôpitaux militaires en Crimée. Ça, c'est du courage à l'époque. Une femme qui faisait ça était pleine de courage et on n'a pas idée. C'est une femme extraordinaire. Et ça dénote aussi de son cœur une grande charité. Alors sur place, le nuit et jour, Florence Nightingale se tient debout parmi ses blessés. À qui la seule vue d'une femme aussi jolie, aussi frêle, qui est délicate, mais qui est chargée d'autorité, eh bien ça donnait du courage quand même à beaucoup de gens de la voir. Puis rien ne la rebutait, hein. Elle était, on le savait, elle était capable d'alerter l'Angleterre tout entière. Elle pouvait braver les autorités de l'hôpital pour obtenir plus vite une amélioration de régime. Elle cherchait à créer des services d'infirmerie. Elle voulait ouvrir des blanchisseries. Elle était fantastique et tout le monde lui obéissait. Elle était surtout capable, cette femme, de travailler en équipe, de s'entendre avec les aides laïques, avec les sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, avec les infirmières de toutes sortes de confessions protestantes. On lui a demandé un jour, écoutez bien ça, à quelle secte elle appartenait. Et quelle belle réponse elle donne. À une secte fort peu nombreuse, celle du bon samaritain. Mon Dieu, que c'est donc vrai. À quoi ça sert d'être catholique si on n'a pas de cœur? À quoi ça sert d'être protestant de n'importe quelle église si on n'est pas un bon samaritain? À quoi ça sert? C'est dans Saint-Jacques, l'épître de Saint-Jacques. Lisez bien l'épître de Saint-Jacques, c'est pas long à lire. Hein. Il le dit, ça sert à rien d'être chrétien ou de se dire croyant si on fait rien. À son retour en Angleterre, Florence Nightingale a commencé une nouvelle œuvre. C'était l'organisation des services hospitaliers d'Angleterre. Et Dieu sait si elle a réussi. Ça s'est répandu à travers le monde et elle est devenue une gloire pour son pays, l'Angleterre. J'aimerais terminer avec une petite prière de Marthe Robin. Seigneur, envoyez donc votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Accordez, Jésus, à tous vos bien-aimés prêtres la grâce du discernement des esprits et comblez-les de vos dons. Augmentez l'amour de vos prêtres. Faites de tous vos prêtres de vaillants apôtres et de vrais saints parmi les hommes. Esprit Saint, Dieu d'amour, venez, venez tel un vent puissant. C'est une prière de 1939 de Marthe Robin.